Salut, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste passionnée par l'humain, la nutrition et le sport. Au cours des dernières années, j'ai réalisé à quel point l'alimentation c'est un sujet complexe qui peut parfois flirter avec différentes sphères de la santé humaine, comme la fameuse psychologie. C'est d'ailleurs cette belle complexité qui fait, selon moi, que le sujet est si fascinant. Dans la quatrième saison du balado, je continue d'approfondir différents sujets en lien avec l'alimentation afin de vous aider à comprendre votre corps, mais également à faire des choix alignés avec vos valeurs et vos objectifs. Pour ne rien manquer sur la nutrition, si le sujet vous intéresse, je vous invite à me rejoindre sur Instagram en retrouvant l'identifiant van-nutritionniste. Fidèle à mes habitudes, avant de te laisser aller à l'épisode du jour, j'ai un petit message pour toi. Donc, si tu me suis sur les médias sociaux, tu le sais probablement, mais c'est dans seulement quelques jours que le programme « Qu'est-ce qu'on mange cette semaine » débutera enfin. Je l'ai créé et je vais l'animer avec, en compagnie en fait, de mon amie Geneviève Plante, qui est créatrice culinaire et auteure de livres de recettes, donc une foodie créatrice, malade, super inspirante, et le programme a pour objectif de vous apprendre à cuisiner sainement et de diminuer la charge mentale liée à la planification des repas. Concrètement, à quoi tu peux t'attendre, c'est 12 semaines de programme. À chaque semaine, il y a un menu hebdomadaire, donc des idées de dîner et souper qui vous sont suggérées, mais aussi expliquées. Donc, on vous partage certaines alternatives si jamais il y a des ingrédients que vous n'aimez pas, que vous trouvez trop dispendieux, si vous êtes végé, si vous êtes seul, si votre conjoint n'aime pas tel aliment. On vous donne davantage d'informations aussi si des fois il y a des ingrédients que vous ne connaissez pas. Puis, on vous partage des produits coup de cœur. Donc, ça, c'est la portion menu. La deuxième portion, c'est les ateliers culinaires. Donc, à chaque mardi, 18h30, on a un atelier en direct pendant lequel on aborde une thématique. Donc, il y a une semaine, par exemple, on va parler de meal prep, une semaine, on parle de tofu, une autre semaine, soupe et potage, les collations, les bons gras, les déjeuners, les salades repas, etc. On a une super belle planification et les ateliers, c'est un mix de, d'informations vraiment très pratico-pratiques sur la nutrition et vraiment d'ateliers culinaires. Donc, on est dans nos cuisines, on vous montre comment cuisiner certaines choses. Par exemple, le tofu, là, on vous montre à peu près 4-5 manières de cuisiner le tofu ferme, plus des astuces sur quoi faire avec le tofu soyeux. L'idée, c'est vraiment que vous développiez vos skills en cuisine parce que c'est la base d'une saine alimentation. Et d'ailleurs, grâce à nos merveilleux partenaires que vous pourrez découvrir sur le site web, le programme est rendu disponible à un prix vraiment accessible. Donc, si tu veux te joindre à nous, il est encore temps, ça commence le 12 septembre. Donc, je te mets en détail dans le descriptif de l'épisode le lien pour t'y rendre. Si jamais tu as davantage de questions, n'hésite pas à m'écrire. Sur ce, je te laisse à l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie d'une collègue nutritionniste que j'ai déjà reçue sur le podcast. Aujourd'hui, je la reçois pour parler d'un tout nouveau sujet, donc un sujet, je pense, qui est amené à être de plus en plus populaire. On s'intéresse de plus en plus à la santé hormonale. Il y a de plus en plus de gens qui vivent avec des bouleversements liés aux hormones, que ce soit à la ménopause, que ce soit en lien avec les SPM ou tout au courant de leur vie. Et là, on va rentrer dans le fameux sujet des perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu, mais si vous ne l'avez pas encore entendu, je pense que vous risquez de le voir circuler là, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, je suis en compagnie de ma collègue Céline Salumi, qui est nutritionniste. Salut Céline!
Salut Vanessa! Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Toi aussi?
Good, good!
Cool! Eh bien, avant qu'on se lance là, dans le sujet super intéressant des perturbateurs endocriniens, même si je t'ai déjà accueilli sur le podcast, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode, pour ceux qui sont nouveaux ou qui s'en souviennent pas tout simplement, peux-tu nous dire, first, ben, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Et justement, pourquoi tu es la personne tout indiquée là, pour venir nous parler des perturbateurs endocriniens aujourd'hui?
Bon, tout indiqué, oh mon Dieu, c'est exagéré! Mais OK, je vais un peu commencer par m'introduire. Donc, en effet, oui, je suis nutritionniste diététiste. Ça fait plus que 15 ans que je travaille dans ce domaine. Mais je me suis trouvé une niche que j'adore. Et cette niche, c'est en lien avec la santé des femmes puis problèmes de fertilité. Puis pour faire le pont un peu avec les perturbateurs endocriniens, c'est que moi, dans mon offre de service, c'est que je donne des consultations, des cours puis des programmes de groupe pour les clients, mais aussi Je donne des formations continues pour les professionnels de la santé et les nutritionnistes. Puis j'ai créé un programme de formation continue en anglais sur la gestion nutritionnelle de l'infertilité. Puis dans la création du programme, il fallait que j'aborde les perturbateurs endocriniens parce que ça sortait beaucoup dans la littérature scientifique. Puis je me suis créé genre un petit 30 minutes où j'ai comme parlé de ce que je sais sur les perturbateurs endocriniens, d'où pourquoi je dis que je ne suis pas vraiment l'experte, mais j'en connais quand même pas mal sur le sujet. Ça fait comme plus que 2 ans et demi que je me lance là-dedans. Mais bref, j'ai fait appel à une collègue, c'est pas une nutritionniste, mais en effet, c'est quelqu'un qui consacre ses études doctorales en perturbateurs endocriniens. Puis je la suivais sur Instagram. Puis j'ai proposé si elle était comme à l'aise de venir puis d'être comme guest speaker dans mon programme pour vraiment comme parler de plus en détail. Puis honnêtement, c'était comme 1 heure et demie de formation et j'étais comme fascinée par tout ce qu'elle avait à offrir, donc toutes les informations qu'elle avait partagées. Puis dans ma tête, j'écoutais ce qu'elle disait, je me suis dit, genre, tout le monde doit avoir accès à cette information. Genre, j'étais au courant de l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé, puis, mais c'était comme un peu vraiment très flou puis très vague dans ma tête. Puis c'est vraiment à ce moment où j'ai compris la science derrière tout ça, puis le degré d'exposition qu'on a de nos jours, où je me suis vraiment comme intéressée à comme connaître plus sur le sujet. C'est en effet devenu un sujet très courant dans mes one-to-one, consultations one-to-one. Puis comme j'ai dit tantôt, dans mes cours de groupe, mes programmes, je consacre toujours une partie où je vais parler des perturbateurs endocriniens. Parce que je trouve que ça fait partie de ces changements de mode de vie qui font quand même une différence, pas juste pour nous, mais on voit aussi l'impact sur la future génération.
Intéressant. Fait que, ben, c'est cool. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait plaisir.
Là, ben, il y a sûrement pas mal de personnes qui nous écoutent et qui disent, mais c'est quoi ça, les perturbateurs endocriniens?
Ouais.
Peux-tu nous définir un peu ce que c'est puis pourquoi on devrait tous s'en intéresser?
Très simplement, c'est des substances qui vont venir interférer avec le système hormonal, soit en mimiquant l'action de l'hormone telle quelle, soit vraiment interférer avec l'action. Donc, ça va venir perturber le système endocrinien, tout simplement. Mais en faisant ça, on sait à quel point nos hormones, puis le système endocrinien, il est important. Ça va venir avoir un impact sur comme plusieurs choses. Dans mon domaine à moi, je vois beaucoup l'impact sur la fertilité, que ce soit des femmes et des hommes. On voit aussi l'impact sur des conditions comme l'endométriose, l'adénomyose, le syndrome des ovaires polykystiques. On voit beaucoup de puberté précoce, on voit de ménopause précoce. Bref, ça c'est comme vraiment dans mon domaine, mais si on regarde grosso modo, on voit que plus de risques de cancer, plus de risques de maladies cardio-métaboliques. Aussi, s'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui sont obésogènes, qui sont aussi une des hypothèses derrière un peu l'augmentation de poids qu'on observe. Donc, en effet, il y a vraiment comme les perturbateurs endocriniens, ça affecte plusieurs aspects au niveau de la santé. Puis, ils sont tellement omniprésents dans notre quotidien, ils sont vraiment partout parce que, genre, tout ce qu'on utilise de nos jours, il y a comme un certain perturbateur endocrinien. Donc, l'idée, c'est de ne pas dire je veux éliminer les perturbateurs endocriniens dans mon day-to-day. L'idée, c'est vraiment d'être conscient puis de diminuer l'exposition. Donc, que ce soit les choses que tu utilises dans ta cuisine, ou que ce soit les choix alimentaires, ou que ce soit les choix de soins personnels, ton shampoing, ton déo, ta crème. Les femmes utilisent en moyenne 12 produits par jour. Ça, c'est en moyenne 12 produits par jour. Donc, et beaucoup de ces produits, si on regarde la liste d'ingrédients, il y a des ingrédients qui contiennent beaucoup de produits chimiques, puis des produits qui sont classifiés de nos jours comme perturbateurs endocriniens.
Y a-t-il plusieurs classes de perturbateurs endocriniens?
Ben, en effet, tu as des noms comme parabènes, DES, pesticides. PFOAS, donc il y a vraiment, c'est comme plus les noms chimiques des perturbateurs endocriniens.
OK. Puis, dans le fond, je sais qu'il y en a certains, notamment, qui vont aller moduler l'action de l'estrogène. Tu sais, j'ai entendu parler comme des xénoestrogènes, mais est-ce que c'est toujours les estrogènes que ça va moduler ou ça peut aller moduler, mettons, l'action de la testostérone, l'action de la TSH, ou c'est vraiment plus dirigé vers les estrogènes?
Non, non, c'est pas juste les estrogènes.
OK.
Y en a des perturbateurs endocriniens qui vont plus avoir une action estrogénique puis comme impacter l'estrogène. C'est pas juste l'estrogène qu'on observe. Donc, tu vois, par exemple, une des hypothèses qui explique le déclin de fertilité masculine, c'est en lien avec l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Puis, il y a plusieurs hypothèses. Donc, on observe une diminution de la qualité, mais on observe aussi une diminution au niveau de la spermatogenèse. On observe une diminution du volume. Donc, ce n'est pas nécessairement l'estrogène qui est juste impacté par les perturbateurs endocriniens.
OK. Puis concrètement, en fait, dans le day-to-day, là, tu dis une femme, justement, utilise environ 12 produits. Là, je pense que tu fais référence un peu à tout ce qui est cosmétique et
Ouais,
genre
produits personnels
crème,
de soins.
ouais,
Ouais, effectivement, c'est
les
ça.
produits personnels, mais ça serait quoi les principaux perturbateurs endocriniens auxquels on est exposé dans le quotidien?
Parabènes, il y
Pas
en a
nécessairement,
beaucoup.
ouais, tu peux me nommer comme, oui, la catégorie, mais aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on doit surveiller? Comme là, on a identifié, tu sais, les cosmétiques, mais tu sais, c'est où qu'elles se retrouvent, puis c'est quoi les plus grandes catégories?
Ben, les parabènes, c'est les plus grandes catégories. Sulfates, puis aussi, ce qui est très facile de faire attention sur les produits, c'est parfums, surtout les parfums qui sont synthétiques. Donc, quand tu vois le mot fragrance ou genre parfum, il faut se questionner, est-ce que c'est synthétique ou c'est vraiment plus un parfum qui vient genre de sources naturelles, genre par exemple une huile essentielle. Mais les plus gros qui sont les plus étudiés sont les parabènes puis les sulfates, d'où, surtout maintenant avec la sortie un peu de toutes les études sur les perturbateurs endocriniens les dernières années, je ne sais pas si tu as remarqué Vanessa, mais si tu vas par exemple en pharmacie ou à l'épicerie où on achète un peu des produits de soins personnels, tu vas commencer à trouver plus de produits où c'est mentionné sans parabènes, sans sulfate, sans parfum, parce que les gens deviennent de plus en plus conscients un peu de leur choix, de choix de produits qu'ils sont en train de mettre sur leur peau.
Puis tu sais, bon, mettons les parfums, on s'imagine très bien dans quel genre de produits on les retrouve, mais concernant les parabènes, on dirait parabènes, moi je pense aux bougies, là, ça, surtout. Mais à part ça, les parabènes puis les sulfates, ça se retrouve où principalement?
Ah, ils sont partout. Juste pour te donner un exemple, genre, qui est tout frais dans ma tête. L'autre jour, je regardais, j'étais en discussion avec une de mes clientes, puis elle utilisait genre une crème pour hémorroïdes. Puis il y avait des parabènes dans la liste d'ingrédients de sa crème pour hémorroïdes. On les utilise quand même, ils sont utilisés beaucoup dans l'industrie des cosmétiques, l'industrie des soins personnels. Mais l'idée, encore une fois, c'est on ne veut pas devenir des chimistes, puis aller comme mémoriser certains noms. Donc là, moi, avec l'expérience, je connais comme maintenant certains mots comme le sodium thiosulfate, le parabène, le triclosan, j'arrive un peu à détecter certains mots, le pétrolatum, genre, c'est des mots que je sais à la base qu'il faut que j'évite parce que je suis rendue habituée. Mais il y a quand même maintenant plusieurs applications intéressantes qui ont émergé, qui nous aident à faire des meilleurs choix. C'est sûr que ce n'est pas gold standard, puis il y a toujours une faille parce que, genre, il ne faut pas dire que, genre, si l'application me donne, genre, le go vert, c'est ça. Mais au moins, ça donne un peu une idée pour, comme, nous aider à faire des bons choix. Puis aussi, il y a même des sites web qui vont, comme, un peu lister des marques qu'on considère un peu plus clean. Et aussi, de point de vue, genre comme labeling sur les étiquettes, il y a beaucoup de compagnies qui deviennent de plus en plus transparentes sur qu'est-ce qu'il y a dans leur liste d'ingrédients. Mais aussi, règle générale, si on achète un produit, puis la liste d'ingrédients, genre, c'est à ne pas finir, puis il y a des mots qu'on n'arrive pas à prononcer, tout comme les aliments, tout comme les produits alimentaires. Ça, c'est aussi un red flag sur ce qu'on est en train d'utiliser, genre.
Ouais. Puis tu parles d'application, mais est-ce que tu as des noms en tête pour les applications?
Il y a Yuka qui est une bonne application. Je pense que Yuka, c'est une application qui est d'origine française. Il y a l'application EWG. Puis récemment, attends, je vais te donner le nom. Il faut que je regarde mon cell. J'écoutais un podcast, puis j'ai découvert une nouvelle application qui s'appelle Clear, donc c'est Clear-Y. Je ne l'ai pas encore testé entre nous, mais ce qui est cool avec cette application, c'est que par exemple, tu es en train de magasiner sur Amazon ou sur Walmart ou whatever, puis tu trouves un produit, tu mets le URL du produit, puis ça va comme te montrer, te dire du produit. Donc, c'est intéressant comme application, mais je ne l'ai pas encore essayé.
Fait qu'on pourrait même justement tester les produits qu'on a chez nous un peu, puis aller
Oui,
valider s'il y en a
oui,
beaucoup ou pas. Ça
oui,
serait intéressant.
oui.
Ouais, effectivement. Puis ça l'agit comment? Tu sais, là, on dit ça va moduler l'action pas des estrogènes, des hormones, mais clairement, ça l'agit comment un perturbateur endocrinien? Tu sais, c'est comment ça fonctionne dans le corps?
Mais comme j'ai expliqué tantôt, c'est vraiment, ça va soit venir mimiquer l'action de notre hormone, mais genre un peu le corps ne va pas comme reconnaître la différence, soit venir affecter comment l'hormone fait son travail. Donc, c'est soit là, c'est comme si tu as comme imaginé comme un genre un bloc Lego, puis tu as comme deux pièces qui vont ensemble. Donc, soit il va venir prendre la place de l'hormone telle quelle, soit il va venir comme plus, genre, affecter comment l'hormone fait son travail. C'est vraiment les deux gros fonctionnements de comment ces perturbateurs endocriniens nous affectent en tant que tels.
Puis ça m'amène sur une question parce que justement, moi, quand j'entends ça, je ne peux m'empêcher de penser au soya. Je sais que justement, le soya est un peu reconnu justement pour venir. Je sais qu'il y a une flexibilité par rapport au soya. Justement, on en parlait là, avant l'enregistrement, mais tu sais que le soya, dépendamment de notre état spécifique, ben, tu sais, il peut venir justement augmenter, tu sais, donc aller en faveur de la quantité d'estrogène ou à l'inverse, tu sais, un peu diminuer la sécrétion d'estrogène. Mais est-ce on pourrait dire que le soya est un perturbateur endocrinien? Et si c'est le cas, est-ce que perturbateur endocrinien est nécessairement négatif?
Mais c'est une question que je me suis posée, puis en effet, je l'ai posée aussi à Julia qui a vraiment comme participé à la formation. Puis en effet, la réponse simple, c'est comme oui, considéré comme un perturbateur endocrinien, mais ce qu'il faut comprendre du soya en tant que tel, c'est que ce qu'on a pu voir dans la littérature, ce qui est intéressant, c'est que ça peut avoir soit une action estrogénique, soit une action anti-estrogénique. Je vais donner comme deux conditions pour comme un peu expliquer. Disons, j'ai une femme qui a l'endométriose, puis l'endométriose, c'est une condition qui est caractérisée souvent par un excès un peu d'estrogène. Le soya risque d'avoir plus une. Puis risque, comme, genre, il y a des chances que le soya va jouer comme plus une action anti-estrogénique pour cette femme-là. Mais pour quelqu'un qui est plus en préménopause, on commence à observer plus un déclin d'estrogène ou fluctuation au niveau de l'estrogène, le soya va venir plus avoir une action qui est plus estrogénique. Donc, c'est comme si. Comme tu as mentionné, il va un peu s'ajuster au taux d'estrogène dans le corps, ce qui est un peu cool du soya. Donc, il faut pas avoir peur de consommer du soya en tant que tel, surtout le soya qui est comme non transformé. Donc, quand on parle du tofu, du tempeh, edamame, ce n'est pas des aliments qui sont inquiétants. Puis je ne veux pas vraiment qu'on commence à dire, OK, je vais éliminer le soya de mon alimentation. C'est vraiment pas ça le message.
Ouais, je comprends. Cool, vraiment intéressant comme précision. Puis, mettons qu'on s'intéresse justement à notre champ d'expertise, donc l'alimentation. Là, bon, on a parlé du cas du soya qui est très spécifique, mais c'est quoi les autres aliments ou les autres comportements alimentaires qu'on doit un peu surveiller pour limiter notre exposition aux
Ouais.
perturbateurs endocriniens?
Ben, il y en a deux gros majeurs. Le premier, c'est en lien avec l'exposition aux pesticides, parce que les pesticides, ça fait partie des perturbateurs qui sont mentionnés. Mais encore une fois, ici, je vais ouvrir une parenthèse très importante. Donc, il ne faut vraiment pas dire, oui, je ne vais pas manger mes fruits et légumes parce qu'ils contiennent du pesticide ou parce que je n'ai pas les moyens d'acheter des fruits et légumes qui sont plus organiques, biologiques. C'est sûr que les avantages de manger des fruits et légumes, il est outweigh, genre, le risque des pesticides en tant que tel. Donc, il y a les pesticides qu'on trouve dans les fruits et légumes. Puis, une façon très simple, donc, si on a les moyens d'aller plus vers comme un budget, d'aller plus sur une épicerie qui est plus organique, biologique pour certains, tant mieux. Mais sinon, bien les laver sous l'eau, juste de l'eau, genre, les rincer sous l'eau, ça peut aider. Puis, aussi, un autre truc que j'ai appris, c'est de les tremper dans de l'eau et du bicarbonate de soude pendant 10-15 minutes. Ça peut aider vraiment à diminuer la quantité de pesticides. Mais Ça, c'est un peu la partie qui m'inquiète le moins puis que je discute le moins. La partie qu'on peut vraiment, c'est là on peut, comme on a le contrôle là-dessus. C'est vraiment l'exposition au plastique dans la cuisine. Genre, quand je regarde dans mes consultations one-to-one, puis quand je regarde les plats de mes clientes, il y en a beaucoup qui vont chauffer leur repas dans des Tupperware en plastique. C'est ça qui est un peu à éviter le plus possible parce que le plastique, il y a deux choses à prendre en considération quand on l'utilise. Les gros no-no, la chaleur puis l'acidité. Donc, quand le plastique il est exposé à la chaleur, puis quand il y a de l'acidité, c'est deux facteurs qui font en sorte que l'exposition au plastique, elle est beaucoup plus élevée. Donc, disons que tu manges une spaghetti sauce rouge, tu mets ça dans un contenant en plastique, tu chauffes ça au micro-ondes, c'est comme le pire, la pire chose à faire. Donc, c'est sûr que on a eu l'habitude de le faire, c'est pratique, c'est moins lourd, mais on veut éviter tout plastique dans la cuisine, même ceux qui sont sans BPA, parce que c'est tout un autre marketing. Le A a été remplacé par le S, puis F, puis autres molécules. Puis on a pu réaliser qu'ils sont aussi nocifs que le BPA en tant que tel. Donc on est mieux de ne pas utiliser du plastique en tant que tel dans la cuisine.
Ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai changé dans les dernières années justement. Là, moi j'avais plein de petits plats de plastique IKEA que j'envoyais au micro-ondes tout le temps, mais vraiment j'ai fait le changement justement depuis que je connais cette notion-là. Puis un changement que j'ai pas encore fait, mais que je pense que je sais qui serait favorable, c'est la fameuse bouteille d'eau en plastique.
Oui.
Recommander ça.
Oui, et ça, c'est aussi, genre, souvent en consultation, puis jamais une de mes clientes va écouter ton podcast, elles vont se reconnaître. Genre, je pourrais être comme jaser avec elles, puis je vois, genre, leur truc du plastique, je suis comme, non, 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 non,
Les gens
impossible.
sont tous fiers de dire qu'ils boivent de l'eau, genre, puis ça, t'es comme, non, non, mais pas comme ça.
Investi dans une. Parce que, écoute, on a l'avantage de vivre dans un pays où, tu vois, par exemple, moi, je suis libanaise d'origine. Puis quand je visite mes parents, j'ai pas le choix que de boire de l'eau embouteillée parce que it is what it is. L'eau n'est pas potable.
Ah,
Mais
ouais.
on vit dans un pays où l'eau est potable. Donc, on n'a pas, genre, d'excuse d'aller vers de l'eau qui est plus en plastique. Surtout quand on est chez nous ou genre on est au bureau toute la journée, on peut facilement avoir, il y a plein, plein, plein de bouteilles qui sont en acier inoxydable sur le marché. Oui, tu vas payer peut-être un peu plus peut-être que celle en plastique, mais ça vaut l'investissement parce que c'est super durable.
Ben oui, c'est clair, c'est clair. Ouais, vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu penses que j'ai deux questions. La première, tu l'as un peu répondu en intro, mais l'autre, ouais, la première. Est-ce que tu penses que, tu sais, comme je me donne souvent un exemple, là, mais tu sais, moi, j'ai pas des SPM difficiles, j'ai pas eu de soucis avec la fertilité, je suis vraiment chanceuse à ce niveau-là. Fait que, est-ce que de se préoccuper des perturbateurs endocriniens, c'est pour tout le monde ou comme si on a l'impression que notre système hormonal se porte bien, notre système endocrinien se porte bien, ben, bof, tu
Non, c'est pour tout le monde.
la réponse.
C'est pour tout le monde, c'est no-brainer. Genre, c'est pas juste parce que si tu as une condition spécifique que tu dois faire attention, parce que on sait que l'impact, c'est sur des années puis des années à venir. Donc, et même le fait qu'on commence à voir des études sur l'impact, genre sur l'épigénétique du bébé. Genre, imagine une femme enceinte qui peut avoir un impact sur. On a pu voir maintenant que certains perturbateurs endocriniens peuvent affecter la fertilité du bébé in utero, ce qui est vraiment genre fascinant. Donc non, c'est vraiment, je trouve que c'est un problème, c'est un problème, c'est comme quelque chose que tout le monde doit être conscient de. Encore une fois, sans aller dans les extrêmes, mais surtout que de nos jours, il y a maintenant des choix qu'on peut faire, donc des choix qui sont plus intéressants dans la cuisine puis dans nos choix personnels en tant que tel.
Puis est-ce que tu penses que les femmes sont plus à risque que les hommes, peut-être à cause de l'utilisation des produits cosmétiques qui est plus grande, mais...
J'ai pas regardé des stats là-dessus, honnêtement, mais je sais que les deux sont impactés. Puis comme j'ai mentionné au début, une des plus grandes hypothèses qui justifie le déclin de la fertilité des hommes, c'est en lien avec cette exposition plus élevée de nos jours de perturbateurs endocriniens. Donc, je pense que ça affecte les deux sexes à côté égal. C'est juste que moi, dans ma pratique, je le vois plus avec les femmes, parce que je travaille principalement avec des femmes, genre, je le vois avec. Donc, on entend comme les conditions comme l'endo, le SEPK, mais Mais comme j'ai mentionné, genre les problèmes d'obésité, les problèmes de cancer, les problèmes cardiométaboliques, on s'entend, c'est des conditions qui affectent également les hommes que les femmes.
Mais je pense que les femmes vont peut-être plus se sentir interpellées parce qu'on vit quotidiennement plus de flux, d'effets, des fluctuations
C'est
hormonales
vrai, c'est
là.
vrai. Donc, on le ressent plus physiquement en tant que
Oui, c'est
tel,
ça,
mais
avec notre cycle, la ménopause, tout ce qui est lié à ça, là, effectivement, je pense que on peut peut-être plus le ressentir, quoi que ce soit pas plus délétère, mettons.
oui, mais aussi pour revenir à un point que tu as mentionné, c'est que les stats disent 12 produits pour les femmes, mais les hommes ne sont pas très loin des femmes, surtout de nos jours. Donc, surtout la nouvelle génération, il y a beaucoup d'importance sur le look, le gel sur les cheveux, la crème sur le visage. Donc, c'est rendu pas juste comme un truc de femme en tant que tel, mais aussi les hommes, puis donc certaines habitudes que certains hommes vont avoir aussi, qui peuvent aussi augmenter leur exposition aux perturbateurs endocriniens plus que les femmes. À mon avis, mais encore une fois, je n'ai pas regardé des stats là-dessus, comme ça affecte
Ça,
les.
c'est
Ouais,
similaire.
c'est égal.
Puis, mettons qu'on rentre vraiment dans le concret, là, parce que là, j'ai l'impression que le monde sont comme, oh mon Dieu, mais là, genre, j'en ai aucune idée. Puis là, on a parlé des applications, puis tout. Mais toi, t'as-tu comme des produits coup de cœur? Ou bien, je vais te poser une double question, dans le fond. Ça serait quoi si tu disais, mettons, les principales actions qu'on devrait poser comme dès demain pour diminuer notre impact? On a déjà parlé de l'histoire des plastiques puis tout. Puis, y a-t-il des produits que tu dis, tu sais, juste ça, mettons, se tourner vers ce produit-là au lieu de ce produit-là, ça peut être favorable?
Ouais. Ben, je veux dire une chose, c'est que moi, ça fait genre 2 ans et demi, un peu plus, que je fais des changements, puis j'ai encore des changements à faire. Donc, l'idée, c'est de ne pas virer fou, puis de dire genre du jour au lendemain, je vais comme faire le ménage de ma maison, puis genre tout, effectivement. Donc, ça prend du temps. Mais moi, la façon que je l'explique aussi à mes clientes, c'est que OK, ton déo, tu n'as plus de déo, tu vas acheter un nouveau déo. Quand tu vas acheter un nouveau déo, prends le temps de magasiner pour un déo qui est plus avec moins de produits chimiques en tant que tel. Même chose pour ton shampoing, même chose parce que c'est tous des produits qu'on utilise dans le day-to-day. Donc, on est en train de consommer très régulièrement. Donc, l'idée de ne pas gaspiller, l'idée, c'est vraiment que quand tu en as besoin, la prochaine fois que tu vas en acheter, sois plus conscient de tes choix. Et pour les, tu m'as, je ne sais pas si tu m'as demandé la question, mais pour les marques, au Québec, on a en effet une très bonne marque qui est Attitude. C'est pas une publication, je suis pas payée pour dire ça, mais c'est en effet, ils ont fait comme un bon, ils ont quand même une bonne gamme de produits, que ce soit shampoing, crème, produits de beauté, etc. C'est sûr qu'il faut essayer. Donc, je t'avoue, par exemple, moi, le déo Attitude, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Même entre guillemets aussi, j'ai ouvert une parenthèse importante, c'est que en parlant de déo, c'est sûr que leur action va être différente qu'un déo régulier, antiperspirant avec aluminium éco. C'est super efficace pour, par exemple, anti-odeur et tout le reste. Mais donc, ça peut prendre genre plusieurs essais de produits pour trouver celui qui nous convient. Tu vois, moi, déo, genre sérieux, j'ai essayé peut-être 5 ou 6 déos avant de trouver un bon. Et même avec ça, quand je voyage dans un pays qui est humide et chaud, oublie ça, genre je mets mon déo naturel de côté et j'utilise le régulier. Donc, il faut vraiment l'essayer puis voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Mais Attitude est une bonne marque. Il y a Seventh Generation, il y a Burt's Bees. Tout dépend, ça dépend un peu de ce que tu recherches. Mais il y a quand même des bonnes marques de plus en plus qu'on trouve facilement, que ce soit en pharmacie ou en épicerie.
Parfait. C'est très drôle parce que j'ai acheté le déo Attitude en fin de semaine. Parce que justement, j'étais due, puis je connaissais la marque Attitude, je savais que justement, elle était comme identifiée comme étant plus clean. Puis je suis quand même, ben, pour une femme, je suis quelqu'un qui sue beaucoup, fait que là, je suis un peu déçue je pense que ça fera pas. Va falloir que tu m'envoies le cue de ton déo. Mais je me suis aussi posé la question en faisant justement ces achats-là, parce que je pars en voyage en fin de semaine, fait que, tu sais, je refaisais un petit peu le plein de certains produits pour que ça mène mieux. Puis vu que tu as fait un peu de shopping par rapport à ça, tu dois peut-être le savoir, mais est-ce que les produits plus naturels, plus clean, sont nécessairement plus dispendieux? T'sais, on sait que de nos jours, l'épicerie, ça coûte cher, le tout augmente. Moi,
Ouais.
j'observais quand même une bonne différence par rapport au prix. Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est la marque ou d'entrée de jeu, souvent, c'est un petit peu plus dispendieux?
Ce que j'ai remarqué, oui, en toute transparence, c'est que c'est plus dispendieux qu'un produit qui est régulier. Genre, je te donne un exemple. En fin de semaine, je voulais magasiner pour un rouge à lèvres. Puis ça, je suis rendue à l'étape où je fais attention à mon maquillage. Donc là, je voulais comme magasiner pour un rouge à lèvres. Puis c'est comme très difficile de trouver un rouge à lèvres qui est comme avec des ingrédients un peu moins toxiques, disons. Puis j'ai trouvé une marque ben, chez Sephora, mais quand même, si je compare le prix du rouge à lèvres à comparer avec genre une autre rouge à lèvres,
C'est plus cher.
c'était plus cher. C'était clairement plus cher.
Oui, c'est ça. Puis, il y a un truc que j'ai entendu dans un podcast justement à propos des perturbateurs endocriniens que je trouvais très cool, qui disait que, dans le fond, si on avait des choses à mettre en priorité, justement, considérant que le prix il est peut-être un petit peu dispendieux, puis qu'on ne peut pas se permettre de tout acheter sans perturbateurs endocriniens, mettons, des fois de se tourner vers les produits qui sont absorbés par la peau en priorité. T'sais. Fait que justement, les crèmes hydratantes, tu sais, va vraiment être absorbé par la peau, ça serait comme nos produits prioritaires finalement à changer là.
Ouais, c'est un très bon point parce que la peau, c'est un organe qui absorbe vraiment beaucoup. Donc effectivement, genre tout ce qu'on met sur la peau, c'est ça fait surtout aussi quand on parle de déo sous les aisselles. Donc c'est des zones où genre l'absorption elle est vraiment super facile.
C'est
C'est
clair.
des bons objectifs si on va dire on va commencer par quelque chose. Oui, ma crème est terminée, ma crème régulière est terminée, puis j'ai pu voir que ma crème régulière n'était pas possiblement le meilleur choix. Qu'est-ce que je pourrais opter? Puis dans les applications que j'ai mentionnées tantôt, il y en a plusieurs qui vont donner des alternatives. Par exemple, tu cherches une crème hydratante pour le corps, voici des options. Ou sur le site web de, par exemple, EWG, ils ont comme toute une section qui vont comme donner des recommandations de différentes marques. Puis c'est pas toutes les marques honnêtement qui sont dispendieuses. Donc j'ai parlé tantôt de Burt's Bees. C'est vraiment, je trouve que les prix sont très très normales. Même je suis surprise que les prix sont comme pas élevés. Donc et c'est considéré comme une dans la catégorie de ceux qui ont moins de perturbateurs endocriniens.
Puis mettons que justement, je fais l'exercice d'aller sur Yuka. Pour exemple, voir si tel produit contient des perturbateurs endocriniens. Est-ce que nécessairement, tu sais, Yuka, tu vois, je ne l'utilise pas. J'avais plus ou moins confiance, honnêtement, du point de vue nutritionnel, là. Fait qu'on dirait
Non,
que.
ouais, nutritionnel, non, mais je
Ouais,
l'utilise
hein,
jamais.
non, c'est ça. Mais est-ce que, comme, nécessairement, il y a comme une catégorie perturbateurs endocriniens? Comment ça fonctionne pour
Non. OK, je vais te montrer. Ben, ça va être plus simple si je m'en vais dans mon application pour te montrer. OK, Yuka, tu as deux options. Tu as l'option qui est gratuite, puis comme j'ai jamais utilisé l'option payante pour te dire ça ressemble à quoi, mais l'option gratuite, tu peux pas chercher un produit. Tu peux juste scanner le barcode du produit. Disons ici, tu vois, ça c'est récemment j'ai scanné un savon, un bar de savon. Ça te donne la composition. Donc ça va te dire, au début ça va te donner comme un soit un code. Donc tu vois ici tu as comme un code vert. Donc si c'est vert, ça veut dire que c'est quand même un bon choix. Puis ça va te donner comme la composition. Donc ici ça me dit limonène, linalool, genre tous les trucs chimiques. Puis, risque faible, risque faible, risque faible, sans risque. Et ça t'explique. Disons que je clique sur un produit que l'application n'a pas comme genre apprécié. Je vais aller chercher. OK, bon. Ici, j'ai cliqué sur un écran. Ça, c'est un écran solaire d'une certaine marque. Je ne veux pas comme défamer des marques, mais bref, ça m'a dit que c'est mauvais. Puis, ça t'explique pourquoi c'est mauvais. Donc, ça me dit qu'il y a quand même une grande quantité d'un certain produit chimique qui s'appelle octocrylène. Puis, ça t'explique pourquoi ce filtre, ce produit chimique, il n'est pas bon pour la santé.
Oh,
Puis, par
intéressant.
la suite, à la fin de l'application, il va te donner comme des alternatives qui sont plus intéressantes, genre
Ah, d'autres
ici,
marques,
ça m'a
là?
donné, ouais, d'autres marques.
Ah ouais, ok, cool. Puis ça s'applique vraiment aux produits du Québec ou des fois on est commis et on ne trouve pas ceci?
Je trouve que Yuka, elle est plus intéressante pour les produits du Québec versus, par exemple, EWG en tant que tel, parce que EWG, c'est vraiment beaucoup de produits qu'on trouve aux États-Unis
Ouais,
qu'on
c'est
n'a pas nécessairement chez nous.
ça. Ok. Cool. Hey, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses par rapport aux perturbateurs endocriniens qui seraient vraiment importantes que les gens comprennent live ou comme on a fait un bon topo. Je sais justement que tu as une formation sur ton site web si les gens veulent approfondir le sujet, mais je vais mettre le lien d'ailleurs dans la description de l'épisode. Mais sinon, est-ce que là, tu penses que, tu sais, y a-t-il quelque chose que tu te dis, ça serait plate qu'on termine l'épisode sans avoir dit ça, ou tu penses qu'on a un bon topo puis qu'avec ça, les gens peuvent se débrouiller puis déjà poser des actions qui sont intéressantes?
OK, deux choses. Ce n'est pas une formation, c'est un guide gratuit. Si j'allais
Pardon.
perdre.
Merci.
Ouais, c'est en effet la formation, parce que c'est une formation plus pour les professionnels de la santé. Il y avait une
OK.
formation que j'ai donnée plus, donc la terminologie était différente.
Je
Mais
comprends.
ce qu'on trouve sur mon site web, c'est vraiment comme un guide gratuit où je parle plus en détail c'est quoi les perturbateurs endocriniens, puis comment diminuer l'exposition, puis comment ils affectent notre santé. Mais pour compléter, ce que je veux dire, c'est que il y a plein de trucs qui ne sont pas nécessairement dispendieux en tant que tels, qu'on peut commencer à appliquer dans notre day-to-day, puis ça va faire une différence. Comme par exemple, aérer la maison, ne pas porter des souliers dans la maison quand on revient. Genre, si tu portes tes espadrilles, tu t'en vas faire une petite course, garde tes souliers à l'extérieur ou à l'entrée parce que nos souliers aussi portent beaucoup de germes. Le plastique, c'est sûr que c'est éventuellement c'est un investissement, mais quand on le fait, tous les trucs en verre, c'est super durable. C'est quelque chose qui va rester des années et des années. L'eau en bouteille, même chose. Puis faire des changements qui sont graduels, mais aussi sans aller dans l'extrême. Donc, on ne veut pas créer ni une phobie, ni une crainte. Mais ça vaut la peine de penser à commencer à faire des changements puis d'être plus conscient, considérant qu'on voit à quel point il y a une littérature scientifique qui back un peu l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur la santé.
Puis à quel point aussi on observe concrètement qu'il y a des gens qui sont de plus en plus qui ont des effets
Ouais.
secondaires, des perturbations
Ouais.
endocriniennes, des perturbateurs endocriniens. Fait qu'on l'observe, là, c'est ça, comme tu disais tantôt, la puberté précoce, la ménopause précoce, les troubles de fertilité, là, c'est un fait. Hey, d'ailleurs, j'ai un flash. Non. Là, je pense que tu vas me dire, ah, embarque pas là-dedans, là, mais je vais quand même poser la question parce que j'ai mis le pied
Oui.
dans la porte. La pilule, la Novula, ça doit être.
Ah non, mais c'est comme, ouais, non, tu as ouvert la boîte de Pandora ici.
c'est ça, je pensais. C'est comme la chose à pas nommer, je pense, mais ouais, clairement,
Non,
ça
ouais, parce que
m'étonne.
ça mérite vraiment qu'on digère le sujet comme il faut pour expliquer
Ouais,
le pour et le contre.
c'est ça. Okay. Je veux juste dire aux gens de peut-être s'intéresser à l'impact de les anovulants sur leur santé et leur santé endocrine. Donc, on va conclure avec ça. Merci beaucoup pour ton temps, Céline. Puis, si les
Merci à
gens
toi.
veulent te suivre, te contacter, comment est-ce qu'on peut te retrouver?
Je suis facilement retrouvable sur les réseaux sociaux, Céline Saloumi Nutrition, Instagram, Facebook, plus active sur Instagram récemment. Puis vous pouvez aussi me voir sur mon site web, donc c'est www.célinesaloumi-nutrition.com.
Merci. Bye bye.
Merci à toi.
Je sais à quel point le temps est précieux de nos jours, donc si tu t'es rendu jusqu'ici, j'en suis fortement honorée. Je t'invite à me suivre sur les médias sociaux Van Nutritionniste sur Instagram ou à consulter mon site web pour plus d'informations à mon sujet et sur la nutrition. www.vdnutrition.com. Bye!